Mimi, tu viens, ça reprend.
Quoi, qu'est-ce qui reprend?
L'émission, la JT du local.
Ah oui, on est déjà lundi.
Brisons le silence, pas les femmes, râle viol, plus écoutée morte que vivante. On ne naît pas femme, mais on en meurt. Bon, ces slogans, vous les connaissez. Oh, et puis si ça ne vous dit rien, il est temps de s'y intéresser. Une journée en particulier dans l'année est là pour vous le rappeler. C'est le 25 novembre, la journée de lutte contre les violences faites aux femmes. Et donc, à l'approche de cette date, différents événements sont organisés en Mayenne et ailleurs. Rassemblements, mise en lumière des violences systémiques que vivent les femmes à cause de leur genre. L'autre radio animera d'ailleurs une table ronde sur la place des femmes et leur parole dans la culture ce vendredi 24 novembre à partir de 18h30 à l'hôtel de ville de Laval. Notez ce rendez-vous, c'est important. Et dans l'JT aujourd'hui, on vous parle d'un colloque organisé par Femmes Solidaires 53. Il s'appelle « Femmes et enfants handicapés, un long parcours de violence ». Il y aura lieu demain 21 novembre à Laval. Alors il est déjà complet, mais on a quand même eu envie d'en parler avec Armelle Maignan et Laurette Auduit, parce que la lumière n'est jamais trop mise sur les violences que subissent les femmes et enfants porteurs de handicap. Elles seront dans quelques instants à notre micro. Et tout de même, je vais rester polie. Bienvenue à vous, chers auditeurs, et bienvenue, Lucie.
Bonjour.
On est ensemble pendant 30 minutes dans ce premier agité de la semaine, et on est heureuse de vous retrouver. D'ailleurs, aujourd'hui, on fait aussi la rencontre d'un étonnant voyageur que nos amis de Radio G ont pu interviewer. Il voyage presque avec sa maison sur le dos, enfin sa maison est plutôt tractée par son vélo. Vous en saurez plus tout à l'heure, ça sera d'ailleurs juste avant d'écouter Madame et Monsieur Cinéma de l'avant-scène. Je parle bien sûr de la chronique de Léni Hénour. Bon Lucie, on revient du week-end. Est-ce que les nouvelles du coin sont riches ou est-ce que c'est plutôt calme?
Eh bien Margot, comme tu le dis, on revient du week-end, alors j'ai plein de choses à vous raconter, chers auditeurices. On va changer un peu et commencer par le point sport. Côté foot, pendant les nationaux U17, les Tangos ont disputé un match face à Paris ce dimanche 19 novembre. Et finalement, c'est un match nul avec 1-1, même résultat que face à Versailles la semaine dernière d'ailleurs. Toujours en foot, mais cette fois-ci pendant les régionaux 2, ce week-end c'est Évron, 8e du classement jusque-là, qui l'a remporté face à Saint-Saturnin, 3e du classement, avec un très beau 3-1. Et puis en cyclocross à présent, ce week-end se tenait le championnat départemental, et c'est Paul Loiseau de Laval Cyclisme qui a remporté la compétition qui se tenait au Ribet. Pour finir sur le sport, en futsal, notre étoile lavalloise, qui était pourtant dans les favorites de la saison, s'est un peu trop reposée sur ses lauriers et a, entre guillemets seulement, remporté un match nul face à Lyon ce week-end. Jusque-là, nos stélistes avaient sans cesse gagné leur rencontre.
C'est sans doute un petit rappel à l'ordre qui n'est pas si malvenu, ce match nul. Qu'est-ce qu'il s'est passé d'autre sur nos territoires ce week-end?
Eh bien, il y a également eu la toute première édition du salon Veg Événement à Laval ce dimanche. Comme son nom le laisse deviner, c'était autour de l'alimentation végane et l'idée était de permettre aux visiteurs de partager ou découvrir des recettes véganes et d'échanger sur les expériences quotidiennes des personnes qui suivent ce régime, pratiques sportives, alimentation, etc. Le public était au rendez-vous et puis, comme on parle alimentation végétale, c'est samedi 18 novembre que 270 arbres fruitiers ont été plantés à l'agricampus de Laval. Des fruitiers forestiers comme des noyers et des châtaigniers, des petits fruitiers comme des cassis, des plants de vigne de muscat, des pommiers et des poiriers. Bref, toutes ces plantations permettent bien sûr l'aspect nourricier, mais nourrissent, si je puis dire, également un projet pédagogique pour les étudiants du site qui, par exemple, pourront découvrir la taille des pieds de vigne.
Des rencontres, des rendez-vous à noter maintenant?
Bien sûr, Margot, dans le cadre de la Journée nationale de prison, vous pourrez, chers auditeurices, assister à des ciné-rencontres autour du film de Catherine Richard, Extramuros, une peine sans mur. Ce sera l'occasion de découvrir les peines alternatives à la prison, comment ça se passe et d'échanger sur la conception de la peine. Une discussion sera d'ailleurs proposée sur les actions au niveau local pour accompagner les personnes placées sous main de la justice et leurs proches. Vous pourriez aller dès ce soir lundi 20 novembre à 20h30 à l'avant-scène, à Laval, ou demain en présence de la réalisatrice mardi 21 novembre à 16h et à 20h au Majestic à Ernée. Et puis, chers auditeurs, je voudrais terminer cette brève en attirant votre attention sur la chose suivante. Le groupe Pigeon, que vous connaissez peut-être, exploite une carrière de roches massives à Entrammes sur le site des Pommerais. Bon, ça, ce n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, en revanche, c'est qu'il souhaite prolonger son autorisation de traitement des matériaux extraits, accueillir des matériaux inertes extérieurs destinés à être recyclés ou utilisés au remblayage. C'est un peu du charabia, cette phrase, je vous l'accorde, mais en gros, la demande de la société Pigeon est d'obtenir un renouvellement et un approfondissement de la carrière des roches et les traitements qui en découlent. Pour l'instant, leur exploitation se fait ressentir auprès des habitants, notamment par des ondes de choc qu'ils ressentent parfois lors des tirs de mines, ces tirs qui provoquent d'impressionnants trous dans la carrière. Si je vous en parle, chers auditeurs, c'est parce qu'un avis d'enquête publique est visible à ce propos en mairie à partir d'aujourd'hui, le 20 novembre, à 9h et jusqu'au 27 décembre à 17h. Celles et ceux d'entre vous qui sont à Entrame pourront consigner des observations et des propositions sur le registre d'enquête. Plus précisément, vos observations seront recueillies par M. Alain Paradandère, lundi 20 novembre de 9h à midi, vendredi 1er décembre de 14h à 17h, samedi 9 décembre de 9h à midi et vendredi 22 décembre de 14h à 17h.
Merci Lucie. Bonjour Armel Maignan, merci d'être avec nous aujourd'hui.
Bonjour Margot, merci de me recevoir avec Laurette.
Et bonjour Laurette Audouin.
Bonjour et puis merci aussi de me recevoir par téléphone.
Donc toutes les deux, vous représentez l'association Femmes Solidaires 53.
Oui.
C'est ça.
Vous organisez entre autres un colloque sous la thématique de femmes et enfants handicapés, un long parcours de violence. On va en parler dans quelques instants ensemble. Est-ce qu'on peut peut-être présenter en quelques mots l'association Femmes Solidaires 53? Qu'est-ce que c'est?
Oui, alors l'association Femmes Solidaires 53, c'est un des comités, un des 190 comités en fait de l'association Femmes Solidaires qui a un bureau national aussi. C'est une association féministe et laïque qui est particulièrement concernée par la défense des droits des femmes ici et ailleurs. C'est-à-dire qu'on a aussi une vocation internationale dans la mesure où on a un féminisme universaliste, c'est-à-dire qu'on pense que les droits fondamentaux des femmes doivent être les mêmes partout. Donc voilà, sur un plan local, on a donc des permanences d'accueil, d'écoute, en particulier pour les femmes et les jeunes filles victimes de violences. On est également agréé par l'éducation nationale, donc on fait beaucoup d'animations en milieu scolaire, foyer habitat jeune, apprenti, etc. Et on organise donc à peu près une fois par an un événement un petit peu plus important, disons, à destination des professionnels et associations. Et pour les réaliser, disons, on fait appel à des professionnels parce qu'en fait, on n'est pas non plus spécialiste de tout, en fait. Donc voilà un petit peu l'étendue de nos actions, avec en plus des séances de self-défense une fois par mois pour les femmes fragilisées. Et puis également une co-animation de stage à l'égard des auteurs de violences conjugales.
Et alors, toutes les deux, vous vous êtes rencontrées justement sur une thématique commune, celle du colloque que l'on va présenter dans quelques instants. Armel, tu as rejoint l'association donc Femmes Solidaires pour cette occasion. De quoi va-t-on parler et pourquoi ça a été important?
Alors en fait, ce colloque, il est né de la rencontre avec Laurette, qui est toute récente. Parce que moi, j'avais envie d'aborder cette thématique des femmes en situation de handicap et des violences qu'elles subissent. Et j'avais besoin de personnes pour porter ce projet avec moi. Et donc, tout naturellement, j'ai pensé à Femmes Solidaires 53. Et donc, j'ai proposé cette thématique et on s'est rejoint là-dessus parce que c'est aussi important que ces femmes-là soient représentées et dans le féminisme et dans toute la société. Donc, de là est née notre envie de parler de ce sujet-là et de monter ce colloque. Donc c'est un colloque qui est à destination des associations, des professionnels et des personnes handicapées qui sont les premières concernées par ces violences, qu'elles soient femmes, enfants ou toutes les personnes handicapées. Donc ce sera le mardi 21 novembre au lycée Réaumur-Buron, c'est complet. Et donc la matinée est animée par l'association Femmes pour le dire, Femmes pour agir. Et puis l'après-midi, il y aura la diffusion du documentaire « Casser debout » de Marie Rabatel. Et Marie Rabatel sera présente ensuite pour un temps d'échange avec la salle, avec les professionnels, pour raconter son parcours et son documentaire.
Et alors l'intervention donc du matin dans l'amphithéâtre du lycée Robert Buron donc est animée par Femmes pour le dire, Femmes pour agir. Et alors quel va être peut-être le sujet de ce premier temps de la journée?
Alors Femmes pour le dire, Femmes pour agir, c'est vraiment l'association qui est on va dire spécialisée dans la lutte contre les violences faites aux femmes en situation de handicap. On a quand même des chiffres qui sont assez glaçants, de 4 femmes handicapées sur 5 qui sont victimes de violences au cours de leur vie. Et donc, il va être question effectivement de ces types de violences, de la plus banale, je dirais, de la violence ordinaire du quotidien, jusqu'aux violences institutionnelles, médicales, gynécologiques, etc. Et aussi voir un petit peu le fait que le validisme, ça inflige, disons, une double discrimination, d'une part aux femmes. Bon, ça, les discriminations contre les femmes, on les connaît, et en plus, discrimination donc liée au handicap. Donc c'est un petit peu toute cette problématique, toute cette thématique-là qui va être abordée le matin.
Et alors, donc, on parle effectivement des femmes, mais on parle aussi des enfants tout au long de ce colloque.
Oui, on parle des enfants parce qu'en fait, on s'est aperçu en discutant avec les responsables de Femmes pour le dire, Femmes pour agir, qu'en fait, les violences, elles commencent au niveau aussi des petites filles. Nous, on a élargi parce qu'il y a aussi des petits garçons qui sont victimes de violences, et puis aussi aux femmes âgées. Donc voilà, on a englobé les enfants. Et d'autant plus que l'après-midi, Marie Rabatel, en fait, va axer plus son propos et son documentaire sur son propre parcours, mais aussi sur les enfants autistes d'une manière générale, en montrant que ces enfants-là sont encore plus vulnérables que les autres enfants. Et il ne faut pas oublier non plus que Marie Rabatel est membre de la CIVIS, la commission donc interministérielle contre l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Et donc c'est d'ailleurs grâce à elle en fait que le point particulier des enfants autistes a été abordé lors des discussions de la CIVIS. Donc c'est important aussi de prendre en compte les enfants.
Et en fait, c'est le constat qu'on a fait avec Laurette tout au long de nos discussions, c'est que quand on est en situation de handicap, eh ben en fait, on est conditionné dès le plus jeune âge en fait, à accepter ces violences, qu'elles soient ordinaires ou physiques ou psychologiques ou institutionnelles, parce que c'est tout au long de la vie qu'on subit ces violences. Qui peuvent être très, très marquées ou très, très ordinaires et très insidieuses. Donc on avait à cœur de représenter ça tout au long de la vie, en fait.
Est-ce que c'est une parole qui aujourd'hui émerge beaucoup, justement, cette question des violences quand on est une femme handicapée ?
Pas du tout. En fait, on n'en parle pas. Et pourtant, les chiffres que vient de rappeler Laurette sont complètement terrifiants. Moi-même, je suis en situation de handicap, je suis une femme, et ces chiffres-là, j'en ai entendu parler il y a un peu plus de 2 ans, et pourtant j'ai la trentaine passée, et j'avais absolument pas conscience de toute cette violence, parce que en fait, on l'intègre très jeune. Donc non, on n'en a pas forcément conscience, et puis même quand on en a conscience, c'est difficile de s'en défaire, et d'autant plus quand on est en situation de handicap, parce qu'il y a la question de la dépendance, la question de comment on fait pour le dire, comment on s'en rend compte, comment on fait, si c'est intrafamilial ou conjugal, comment on fait pour devenir indépendante quand on peut pas travailler, quand on a besoin de personnes aidantes. Et en fait, souvent les personnes aidantes, c'est dans la famille, c'est le conjoint, c'est les proches, et il faut pas oublier que les violences faites aux femmes, valides ou handicapées, les violences sont commises par les proches en premier lieu. Donc il y a cette double discrimination et ces doubles facteurs qui font que c'est encore plus compliqué de se défaire de ces violences-là quand on est en situation de handicap.
Tu parlais d'intégration, Armel, le fait à un moment ne même plus percevoir ces violences, enfin s'en rendre compte. Et c'est aussi pour ça qu'on parle des enfants ici, et qu'il y aura même des étudiants, enfin des élèves du lycée Robert Buron présents dans la salle tout au long de ce colloque, et qui pourront intervenir tout particulièrement après la projection du film Cassé debout.
Oui, on a trouvé ça très intéressant avec Laurette, c'est que du coup, il y aura plusieurs enfin, type de public, et c'est hyper important que cette thématique, cette question des violences arrive jusqu'aux professionnels, aux associations, aux jeunes, aux élèves, aux personnes concernées en fait. Et on a trouvé que la réflexion était importante pour tous ces publics-là.
Oui, puis je crois que c'est important aussi que, ben, que tout le monde se rende compte que c'est pas une question marginale de s'occuper des violences faites aux femmes et aux enfants handicapés. Parce qu'on peut, bon, c'est vrai que le 25 novembre, c'est la lutte d'une manière générale contre toutes les violences faites aux femmes. Et il faut savoir quand même que en particulier les femmes en situation de handicap, non seulement subissent les violences qui sont traditionnellement, je dirais, faites aux femmes, mais qu'en plus, elles ont la violence liée au fait qu'elles sont en situation de handicap. Donc, des remarques vexantes et qui font très mal, ou bien même des violences physiques. Et puis aussi liées, par exemple, j'entendais ce midi encore au journal télévisé quelqu'un qui a maltraité un chien guide d'aveugle parce qu'il refusait que le chien rentre dans son taxi. Et en fait, c'est des violences aussi qui sont banales et pourtant c'est contraire à la loi. Je veux dire, normalement, dans tout lieu accueillant du public, une personne non-voyante a le droit de venir avec son chien.
On va dire à ce type de public, oh, mais adapte-toi ou fais un effort.
Voilà,
c'est aussi des réflexions comme ça qu'on va plus faire à ce type de personnes parce que...
qui sont pas suffisamment remises en question, en fait.
Exactement.
C'est intégré aussi par l'environnement, par la société en général, sans doute, oui.
Ouais. Oui, complètement. Oui, c'est vrai que c'est... Quand on commence à lever un petit peu le voile là-dessus, on s'aperçoit que c'est vraiment énorme, quoi. Parce que c'est dans tous les domaines de la vie. Et voilà, donc c'est pour ça qu'on a tenu à le faire avec Armelle.
Et alors, quelques mots également sur l'association francophone des femmes autistes qui va également intervenir sur cette journée. Il y a aussi donc là la question de l'handicap invisible.
Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que Marie Rabatel sera là, donc elle est la présidente de la FA, de l'association francophone des femmes autistes. Elle est donc elle-même autiste. Et quand elle décrit son parcours de vie, avec des violences qu'elle a subies étant enfant, certains rejets aussi du milieu scolaire, de plein de choses, on s'aperçoit qu'effectivement, on a tenu absolument à la voir à nos côtés, parce qu'en plus, elle est très attachante, et puis ça soulève effectivement la question de l'autisme, de l'accueil aussi des enfants autistes dans certaines structures spécialisées ou en inclusion dans le milieu scolaire. Et donc pour ça, on a aussi, et c'est moi qui lirai le texte, le témoignage écrit d'une maman d'enfant autiste, et c'est quand même aussi assez, assez révoltant finalement.
Donc ce colloque sera l'occasion de créer de l'échange, d'ouvrir des pistes de réflexion et puis de faire entendre des témoignages de ce qui se passe dans les femmes. Il y aura d'autres temps que Femmes Solidaires vous organisez tout au long de cette semaine?
Alors, en tant que Femmes Solidaires, on a seulement la participation à une table ronde, d'ailleurs avec l'autre radio,
tout à fait.
Sur le rôle de la culture dans la lutte contre les violences. Donc là, on sera également représentés, effectivement. Et puis, sinon, c'est à peu près tout, notre participation à la semaine du 25 novembre, sauf quand même, mais là, ça sort de Laval, donc ça vous concerne aussi. Le 25 novembre, le samedi 25 novembre, donc nous serons avec d'autres partenaires, dont les possibles de Mayenne, Copainville, la MPF de la gendarmerie, la Citadelle, etc. Nous serons toute la matinée sur le marché de Mayenne, place Clémenceau. Donc
un rendez-vous à nos auditeurs, là où ils pourront échanger avec vous rencontrer, poser des questions et trouver éventuellement des ressources d'information auprès de vous directement.
On sera là, on aura des stands d'information et puis on pourra répondre aux questions effectivement.
Merci beaucoup. On peut également vous retrouver peut-être sur les réseaux sociaux.
Oui, sur Facebook. Donc, on a un profil Facebook Femmes Solidaires 53. Et également sur Twitter.
Pour suivre un petit peu toutes vos actualités et puis voir les prochains événements que vous organisez sur notre territoire.
Tout à fait. Ben, merci beaucoup.
Merci à vous. Merci
Margot.
Merci Armelle.
Au revoir.
À la fin de cette émission, on écoutera notre chronique cinéma de l'avant-scène. Ça t'inspirait un morceau, Lucie, je crois.
Et oui, chers auditeurs, aujourd'hui, je vous propose d'écouter un rappeur français que vous avez peut-être entendu dans la secte phonétique. Ceux qui ne le connaissent pas encore, c'est un cheval marin cinéphile qui nous invite à un petit aquatrip dans son premier album en 2013. On écoute l'hymne au cinéma d'Hippocampfou.
Sérieusement comme le font les enfants, c'est un art cathartique qui nourrit, qui choque, divertit, ébouri, fou, ravi, fait sourire ou s'ouvrir. Toutes ces histoires à dormir assis nous en mettent plein la vue et l'ouïe. Des personnages de Jarmusch aux images de Bill Kesselan, du rire d'Amadeus au punchline de Blier. Les bons films sont rares, s'apprécient comme des cadeaux. Il m'est arrivé d'avaler des soupes de navets spatiaux qui n'ont pas étanché ma soif, ébranlé ma passion, l'écran et ma glace. Donc mon esprit, comme guidé par l'orgasme, m'a suggéré d'écrire cet hymne au cinématographe. J'ai fait du parapente en me jetant du paramonte. Oubliez mes 20 ans sous les projecteurs de la folle. J'ai même invité Totoro à dormir dans un château rose. Lui ai fait faire son rototo. On était en parfaite osmose, parfois du thé de Dreamworks. Je me jette à l'eau pour mieux grimper au sommet de l'antenne de la RKO. Quand sauvagement le lion de la MGM rugit dans ma tête, des fragments de live de NTM surgissent. On a pendu Laurel et Hardy pour quelques dollars de plus. J'ai retrouvé la corde planquée sous une arche russe. Les fils de l'homme qui rétrécit ont rejoint le 7e continent. C'est irréversible. Sadako a mis du gloss et à court vers son petit âme en os. Verratou, la sorcière du pays d'Oz, est jalouse, fond en larmes et son mari vole de mort fait la roue. Saviez-vous que suite à un raz-de-marée, des crocodiles zombies dorment au pied d'un monolithe sur la montagne sacrée d'antique. Un vieux droïde androgyne parcourt une plage de naturistes. Quand j'embobine cet art utile des pages d'images, je jaillisse. Je vois les gants de Gilda sur le pont de Dockville, piétiné par Godzilla. La hache de Jack Torrance dans les mains d'un joker hostile. Pas besoin des joints de Jet Lebowski. Au ciné, y'a trop de miracles. Familial ou solitaire, à la croisée du réel et de l'imaginaire. Même le quotidien y paraît extraordinaire. Et quand on choisit bien la salle, l'entrée n'est pas si chère. Alors oubliez les forums sur internet. Venez faire vibrer les murs de toutes ces salles désertes. Savourez les jump cuts, les travelling compensés, les invraisemblances cohérentes, la vie condensée. Dévorez du regard des faces de cake, des vallées 4 à 4, les escaliers sales de règles. Croisez Lars von Trier, je suis trop fan de ce mec. Je pourrais lui offrir un manteau en potane de Shrek.
Bah
parmi les amis de l'Agité, on compte Radio G. Alors, ils ont eu un invité un peu à part il y a quelques jours, puisqu'ils ont tendu leur micro à Romain Couteau, qui sillonne les routes européennes sur son tricycle à roulotte. Alors, pour que vous puissiez bien visualiser, il s'agit d'un vélo tractant réellement une roulotte. Alors, Angers, c'est pas loin, il se pourrait qu'on croise cette petite maison sur roue sur nos belles routes mayonnaises, qui sait.
Salut Romain.
Salut.
Romain, toi, tu fais un peu le tour de la France et de l'Europe aussi. J'ai vu sur ton tricycle, du coup, avec une petite roulotte. Qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, de faire cette aventure, en fait ?
Alors, j'ai toujours été nomade. À la sortie de mes études, j'ai acheté un camion pour faire les saisons et j'ai vécu un certain temps comme ça. Donc, ça a toujours été dans mon sang, au final, de bouger, de faire les saisons. Puis, au bout d'un moment, je me suis posé des questions vis-à-vis de mes convictions écologiques et économiques aussi, de changer de moyen d'habiter et de moyen de me déplacer. Donc le vélo, ça me plaisait pas mal. J'avais déjà fait quelques voyages à vélo sur la France et jusqu'au Maroc. Et donc c'est pas mal, ça permet de se déplacer quand même assez rapidement, avec un certain degré de confort quand même aussi. Mais pour ce qui était de l'habitat, la toile de tente, comme on a l'habitude d'avoir pour voyager en vélo classique, ça me convenait pas. Pour une longue période, donc j'ai décidé de fabriquer une remorque en fait suffisamment grande pour pouvoir y dormir à l'intérieur et y stocker toutes mes affaires au sec.
Et justement, bah, toi tu es dans une roulotte et tu en as déjà eu deux avant. Tu en as eu une en 2020, si je dis pas de bêtises, une deuxième en 2021 et une autre en 2023. Pourquoi les roulottes, c'est un truc qui te plaît ou c'est juste le plus pratique en fait ?
C'est déjà, ça me plaît pour l'image et la poésie que ça apporte, et puis aussi que d'un point de vue pratique. Il y a quand même cette facilité-là de peu importe le lieu sur lequel j'arrive, j'ai juste à mettre mes véquilles et le lit est toujours prêt, j'ai un coin cuisine, le chauffage, la surface est suffisamment grande pour y mettre des panneaux solaires et avoir mon autonomie électrique. Donc ça répond à tous les besoins que j'avais du confort minimum. Et de plus, ouais, j'essaie d'y mettre une certaine esthétique, une certaine poésie. Donc je reste un grand enfant, je fais du vélo tous les jours et je vis dans une cabane. On l'a un peu tous rêvé.
Alors du coup, toi tu fais le tour de la France et de l'Europe aussi, plus particulièrement l'Espagne et le Portugal, mais ça, je vais y revenir un petit peu après. Pourquoi tu es souvent dans notre région ? J'ai vu sur tes posts Instagram, tu aimes bien l'Anjou, tu es aussi allé sur l'île d'Oléron. Pourquoi cette région, et même la Bretagne, c'est quelque chose qui te plaît ?
En fait, au final, je voyage pas tant que ça. Je suis plus à vivre sur les routes, qui est une toute petite différence. Je fais le tour de mes amis, il faut que je m'arrête de bosser de temps en temps. Et donc, au final, de temps en temps, comme quand je suis descendu en Espagne et au Portugal, il y a des grands projets de route qui se font. Et là, ça s'établit sur plusieurs mois quand même pour descendre dans ce genre de région-là. Et j'y passe souvent, c'est pour faire le tour des amis. Donc, c'est-à-dire que si je vais en Bretagne, et le temps d'y aller, de faire le tour des amis, ça fera un an que je n'aurai pas vu les amis qui sont dans le sud-ouest. Donc, je redescends dans le sud-ouest. Et puis, inversement, au bout d'un moment, j'avais envie de voir à nouveau mes amis bretons. Donc, je remonte.
C'est quoi, toi, les paysages qui t'ont le plus marqué dans ta traversée dans ton périple, si on peut dire?
En vélo roulotte, j'ai beaucoup aimé tout ce qui était les déserts en Espagne. Il y a un côté très méditatif à être sur des routes qui font plusieurs dizaines, voire centaines de kilomètres de long, tout droit jusqu'à l'horizon. On se dit, là, il n'y a rien pendant 60-70 bornes avant la prochaine ville, et c'est tout droit. Et quand on est à un rythme de vie et d'avancement très très lent, et en fait, ça cesse de temps d'être très contemplatif et de méditer.
Et le Portugal, toi, ça t'a sans doute marqué aussi, toi qui y as été. T'as fait la côte, si je dis pas de bêtises.
C'est ça.
Elle est comment, la côte ? Elle est différente de la nôtre, non ?
Ouais. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de falaises, beaucoup de criques. Et le Portugal, ça a été vraiment un voyage assez merveilleux aussi, bien sûr, les paysages que les rencontres humaines. J'ai vraiment très, très apprécié. Par contre, j'avais pour projet de faire vraiment toute la côte et arriver à mi-Portugal, j'ai décidé de retourner en Espagne. Parce que la problématique est là-bas que les routes sont très dégradées et la conduite des Portugais un peu énervée quand même. Donc j'y ai vécu des super moments et tout, mais c'était pas adapté au type de vélo et d'attelage que j'avais de rouler au Portugal. Donc, peut-être que j'y retournerai.
Ouais, un peu à refaire, j'allais dire. Et justement, t'as d'autres projets, toi, de pays, de villes à visiter qui te font rêver ?
Oui, il y a un projet qui, depuis plusieurs années, me tente énormément, mais qui demande quand même pas mal de temps et d'organisation. Ça serait de retourner au Cap Nord, en Norvège, avec le vélo et la roulotte, cette fois-ci. J'y étais allé il y a quelques années de ça avec un ami en stop. Et j'aimerais vraiment y aller avec la roulotte en montant par tous les fjords norvégiens et en redescendant par la mer Baltique. Mais voilà, ça demande une sacrée organisation et de ne pas trop perdre de temps, puisqu'il y aurait entre 11 et 12 000 kilomètres. avec l'impératif de la saison hivernale.
Comment on organise un voyage comme ça ?
En passant des heures carrées sur des cartes.
Et bah, pour y aller justement aussi, c'est tout un périple. Tu passes du coup par différents pays. Et c'est dur peut-être mentalement, non ?
J'ai ça dans le sang hein, de bouger en permanence. Je suis un intranquille un peu et... De temps en temps, je m'arrête pour bosser ou à chaque fois pour reconcevoir une nouvelle roulotte. Et c'est des périodes qui durent entre 1 et 3, 4 mois maximum. Au bout de 2 mois, j'ai la bougeotte et...
Il n'y a pas de choc culturel, c'était toujours bien accueilli en fait.
Non, non, puis je circule surtout sur l'Europe, donc il y a quand même une culture occidentale qui est assez lissée, avec des particularités propres à chaque pays, mais voilà.
Eh ben, merci Romain, j'espère que ça t'a plu.
Carrément.
On peut te retrouver sur Insta.
Ouais.
Gypsy.snail, GYPSY.SNAIL. Voilà, on va y arriver. Bah, merci Romain.
Merci, bonne route et bonne aventure à vous.
Merci à Radio G pour ce partage d'interview. Après l'hymne au cinéma que Lucie nous a proposé, c'est parti pour la chronique du jour.
Monsieur et Madame Cinéma, Léni et Nour, qui représentent l'avant-scène, sont avec nous aujourd'hui. Bonjour à tous les deux.
Bonjour. Bonjour.
De quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ?
Du coup, cette semaine, je vais vous faire le programme et les sorties de cette semaine. Donc on commence avec les deux films jeunesse qu'il y aura. Donc on va avoir Mars Express de Jérémy Perrin qui sort cette semaine avec la voix de Léa Drucker et Capellito fait son cinéma de Rodolfo Pastor qui est sorti également cette semaine. On va avoir aussi Et la fête continue de Robert Guédugin, How to have sex de Molly Wanning Walker, La barbe à papa qui sera un ciné-débat avec Carole Debarra, Le règne animal de Thomas Caillet, The Old Oak, le dernier de Ken Loach, Killer of the Flower Moon, le dernier de Martin Scorsese, La règle du jeu de Jean Renoir et Bienveillance paysanne de Olivier Dickinson.
Et toi, Léni, est-ce que tu as des choses à nous dire ?
Eh ben, bonjour à toutes et tous. Et moi, aujourd'hui, je n'avais pas spécialement envie de faire une chronique sur un film, ou plutôt, j'ai eu une meilleure idée. Aujourd'hui, je voulais définir avec vous l'expression, ou plutôt la notion d'art et essai. Donc l'art et essai, c'est une notion qui s'attache au cinéma et à l'œuvre cinématographique dite d'art et essai. Et pour qu'elle soit qualifiée comme telle, l'œuvre cinématographique dite d'art et essai, elle s'attache à des principes, des normes maintenant, qui la définissent aux yeux du public, mais également aux yeux des institutions comme le CNC, entre autres. D'ailleurs, le CNC, donc le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée, propose une assez bonne définition de ce qu'est une œuvre d'art et essai. Et cette définition, on va en discuter puisque je la trouve suffisamment pertinente pour briser des idées reçues que peuvent avoir les spectateurs face au cinéma d'art et essai. Donc pour le CNC, une œuvre d'art et essai, ça va être en premier lieu une œuvre qui a un caractère de recherche et de nouveauté. On pourrait par exemple accrocher cette caractéristique à un cinéma notamment expérimental, un cinéma à la poursuite d'une idée assez nouvelle, sans forcément que celle-ci soit esthétique d'ailleurs. Le cinéma d'art essai, c'est aussi les œuvres aux qualités incontestables, qui n'auraient pas eu une audience méritée. C'est pour cela qu'un cinéma d'art essai, comme l'avant-scène, va proposer des ressorties, pour proposer ce qui n'aura pas forcément eu le temps ou la chance d'élargir son public. Une œuvre d'art essai, elle peut aussi être qualifiée comme telle par le simple fait qu'elle provienne de régions du monde dont la production cinématographique est peu diffusée en France ou dans les autres pays. Ça va notamment être le cas pour le cinéma africain ou le cinéma sud-américain. Le film dit classique ou culte, dont l'intérêt artistique ou historique est aux yeux de tous une évidence, a lui aussi le droit à son étiquette art essai. De même que pour le cinéma de courte durée, donc principalement de court-métrage, qui a régulièrement cette qualité d'être un cinéma novateur et plutôt rempli de bonnes idées. De manière plus exceptionnelle, une œuvre récente, peut-être plus grand public, mais qui réussit à s'attribuer les faveurs de la critique, notamment la critique ayant moins d'attache à ce type d'œuvre, peut être aussi qualifiée d'œuvre d'art et essai. De la même façon, le cinéma amateur peut lui aussi, de manière plus rare, être considéré par le CNC comme dit d'art et essai. Donc ce que je vous dis là, c'est les critères du CNC. C'est propre au CNC, mais ça montre que le cinéma d'art essai, c'est un monde assez vaste, qu'il est mentionné à aucun endroit qu'une œuvre d'art essai se veut intellectuelle, et à vrai dire, les choses sont même faites pour ne pas rendre le cinéma d'art essai élitiste, et c'est dommage, je trouve, de lui coller ces étiquettes, alors que ce que l'art essai a à offrir, c'est finalement l'art en soi, c'est le beau, c'est un cinéma désintéressé. À partir de tous ces critères, le CNC, lui, il attribue des labels faits à partir de classements pour ensuite accorder des subventions, des aides destinées à nourrir finalement ce cinéma d'art et essai. Mais je vous propose d'essayer la prochaine fois de vous présenter ce qu'est plus précisément le CNC, de vous parler de ses missions et de son importance pour le cinéma français.
Merci beaucoup Lénine. Donc voilà. Finalement, le cinéma d'art et essai est plutôt pour tout le monde et pas uniquement voilà. pour les grands cinéphiles.
Non, pas du tout.
Tout à fait.
Donc c'est un plaisir de découvrir ça. Nour, tu nous parlais un petit peu de la programmation tout à l'heure. Est-ce que tu as, toi, un film coup de cœur que tu as particulièrement envie de voir ou de redécouvrir au cinéma ?
Alors moi, j'ai flashé sur le Mars Express que je n'ai pas encore vu parce qu'il n'est pas encore sorti. Mais je vous le conseille parce que c'est un film qui a reçu plusieurs prix. C'est un film français d'animation. C'est plutôt futuriste, ce sont des dessins quand même assez réalistes. On parle de science-fiction et ça a l'air d'être une histoire vraiment, vraiment plutôt intéressante, en sachant que la personnage principale est une femme, ce que je trouve aussi intéressant. Donc voilà, moi ce serait vraiment le film que je conseillerais pour cette semaine.
Eh bien, génial, on a hâte de découvrir tout ça et de venir vous rendre visite au cinéma L'Avant-Scène. À bientôt.
Merci.
Alors j'aimerais vous dire que ça continue, mais l'agité du local laisse la place. Et à 19h, c'est Solénoïde sur l'autre radio.
C'est l'émission de la semaine qui vous amène ailleurs et en musique.
Et à 20h, la soirée continue.
Aujourd'hui, c'est Morgane qui nous proposera sa discothèque.
Et en musique, Morgane sait de quoi elle parle, bien sûr. Et pour les nostalgiques du week-end, l'autre radio vous emmène en voyage ce lundi. Alors, chers auditeurices, bon décollage, bon voyage. Et sur votre passage, faites-le bien.
Bon, ben, Mimi, on dirait que c'est fini.